Catherine Labouré, qui est-elle, Sainte Catherine Labouré? Sa mère est morte le 9 octobre 1815. C'est au moment où l'empereur Napoléon Ier est en route pour l'île Sainte-Hélène, où il arrivera le 15 octobre avec son petit groupe de fidèles. En France, la restauration de la royauté avec Louis XVIII s'installe et les grands rêves de révolution se dissipent sur les champs de ruines. Mais dans un petit village qui s'appelle Fin-les-Moutiers, petit village en Bourgogne, 200 habitants à peine, une petite fille pleure. C'est une fille qui n'est pas vraiment de famille pauvre, mais elle est de famille très simple, petit village. Elle s'appelle Catherine Labouré. Elle n'est pas seule à pleurer. Et pourquoi pleure-t-elle? Elle est la 8e des 10 enfants qui viennent de perdre leur mère. Leur mère qui vient d'un milieu assez bourgeois. On a un portrait d'elle qui est très élégant. Elle a 46 ans quand elle meurt. Elle était en effet d'une famille aisée. Elle avait épousé volontairement un fermier avec lequel elle est tombée en amour, comme on dit chez nous, Pierre Labouré. C'est un décès subi. La maison est en deuil depuis 5 heures du matin, ce 9 octobre 1815, et les voisins présentent leurs condoléances, leurs services aussi au fermier Pierre Labouré, qui était jusqu'au le mois précédent, monsieur le maire, reçoit ces gens, et la grande salle de ferme, car c'est une belle ferme, est remplie de chuchotements feutrés. On prie, avec ce goût nouveau de la prière, qui surgit des persécutions de la Révolution, qui s'est achevée quelques années plus tôt, une vingtaine d'années plus tôt, même pas. Et alors, comme orpheline, Catherine Labouré est promue maîtresse de maison, une position que bien des femmes n'atteignaient qu'à la cinquantaine ou jamais. Et voilà qu'à 12 ans, Catherine est la reine, en somme, dans cette grande ferme close, comme un bastion. C'est comme un fort, ces fermes-là. Une reine qui travaille, par exemple, mais qui commande aux serviteurs et à la servante. Ils ont du personnel. Son petit royaume, c'est l'enclos, l'étable, le jardin et surtout la salle de ferme. C'est finalement assez grand pour une enfant son âge. Et comme maîtresse de ce domaine, Catherine est la première levée dans la maison et en toute saison, elle doit s'éveiller la première, évidemment, et ses yeux s'ouvrent lorsque la nuit blanchit, vous savez, au tout début, et que l'horizon commence à se teinter de bleu et de mauve à travers les fenêtres. Elle aime ça, l'aurore, surtout l'hiver, quand les nuits sont plus longues, et qu'elle guette le premier rayon du jour. Sous son édredon, car on porte des édredons sur les lits, dans ces pays-là. Et puis, la principale fonction quotidienne de Catherine Labouré, c'est quoi? Bien, c'est préparer des repas, 3 repas. Puis le souper, bien, c'est toujours la même chose, des potées de légumes ou lard. Ça demande beaucoup de travail quand même, et la fermière, elle est maîtresse et servante, donc elle paie de sa personne plus que n'importe qui. Voilà qu'elle... se forme le caractère. Il y a aussi le soin des bêtes, mettre des vaches matin et soir, etc., etc. Il faut distribuer le fourrage, il faut conduire le troupeau à l'abreuvoir communal, il faut verser au cochon la soupe engraissée de tous les restes de rebut, puis elle déniche les œufs au poulailler, et toute la journée elle va et vient au puits. Heureusement qu'il n'est pas trop distant, elle va tirer l'eau. Et il faut ménager l'eau, et durant les longues soirées d'hiver, bien, les petits travaux se prolongent sans relâche. Mais la prière qui clôt la soirée porte plus loin la communication. Là, après avoir parlé, discuté, bien, tout un espace de liberté qui s'installe dans ces maisons. C'est programmé de l'intérieur, par la prière, comme on avait dans nos maisons il n'y a pas si longtemps. Parce qu'on est en milieu catholique chez Catherine Labouré. Et Catherine Labouré habite donc avec Dieu dans la foi et dans l'amour, et aussi dans la communion des saints. Oui, c'est une concitoyenne des saints. Elle les invoque, elle les prie. Mais plus encore, la sainte qu'elle préfère, c'est la Vierge Marie. Elle la trouve chaque fois qu'elle va à l'église de Fin, dans son village, d'abord au-dessus du porche, avec son enfant dans les bras, puis à l'intérieur, elle a les mains tendues dans un geste d'accueil. Mais le tabernacle est vide dans cette église sans prêtre. La présence du Seigneur imprègne sa maison. T'es sûr? Dans une église, il y a toujours une présence du Seigneur. Et elle se révèle au fond du cœur de Catherine. Et là est son rêve d'avenir. Avec sa petite sœur Tonine, elle fait des rêves. Et sa sœur comprend son rêve, c'est d'entrer en religion. Et la prière inonde son cœur. Et puis, au même moment, vivent des gens extraordinaires. Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jeanne Juguin, Saint Jeanne Antide Touret, la fameuse mère Javoué, Sainte Madeleine Sophie Barra, etc. Je vous ai fait des émissions sur chacune de ces personnes. Et la prière rejaillit en elle de bonnes sources irrésistiblement. Et puis elle reste longtemps à l'église de son village. Et à défaut de retrouver le Seigneur dans l'Eucharistie, elle le retrouve dans son cœur de baptisé, et plus spécialement dans les pauvres, oui. Qu'elle accueille les malades qu'elle visite. On voit, elle se forme, elle va devenir une sœur de la charité extraordinaire. Et elle entre chez les sœurs de la charité en 1830 à 23 ans. Et c'est là qu'elle aura trois apparitions extraordinaires, trois apparitions fantastiques qu'elle a gardées secrètes, pour ainsi dire, toute sa vie. Mais elle en a parlé dès l'instant où elle les a eues à son directeur spirituel, qui avait beaucoup de difficultés à la croire. Mais vous verrez ce qui va se passer. Un phénomène fantastique. Et vous savez que, à peine 2 ans après les apparitions, la médaille a été frappée avec l'approbation du fameux Monseigneur de Kellen, l'archevêque de Paris. Et sa diffusion a été accompagnée de guérisons nombreuses et de conversions retentissantes, comme je vous ai dit. Et l'archevêque a ordonné en 1836 une enquête canonique au sujet des apparitions, de l'origine et des effets de la médaille dite miraculeuse. Il y a eu 19 séances, c'était sérieux, qui ont eu lieu, et le rapport du promoteur a conclu à la réalité des visions de Sainte Catherine Labourie, à la véracité des miracles obtenus par la médaille miraculeuse. Tout ce dont je vais vous parler dans quelques minutes.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus totus mentis tui,
évidemment, un Ave Maria Dominus Tecum, chanté par le chœur grégorien du Mans, sous la direction de Philippe le Noble. En fait, c'est le chœur de la cathédrale du Mans, le Mans réputé pour les courses automobiles, mais réputé surtout pour nous, parce que c'est tout près du Mans qu'existe cette abbaye fantastique, qui est l'abbaye de Solesmes. Et voici donc le récit des apparitions dont je viens de vous parler un peu. Catherine Labourie écrit à 11h30 du soir, « Je m'entendis appeler par mon nom. » « ma sœur. » M'éveillant, j'ai regardé du côté où j'entendais la voix, qui était du côté du passage. Je tire le rideau. Je vois un enfant habillé de blanc, âgé à peu près de 4 à 5 ans, qui me dit, « Levez-vous vite. » Et venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. Aussitôt, la pensée me vient. Mais on va m'entendre. Et cet enfant me répond, il répond à sa pensée. Soyez tranquille, il est 11h30. Tout le monde dort bien. Venez, je vous attends. Je me suis dépêché de m'habiller, et je me suis dirigé du côté de cet enfant qui était resté debout sans avancer plus loin que la tête de mon lit. Il m'a suivi, et plutôt, je l'ai suivi, toujours sur ma gauche, portant des rayons de clarté partout où il passait. Les lumières étaient allumées partout où nous passions, ce qui m'étonnait beaucoup. Mais bien plus surprise, lorsque je suis entré à la chapelle, la porte s'est ouverte. À peine l'enfant l'avait touché du bout du doigt. Et en racontant ingénument son aventure, Catherine Labouré ne se doute pas qu'elle réitère, en fait, l'aventure de qui? Bien, de Saint-Pierre. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, lorsque Saint-Pierre est libéré de sa prison, c'est écrit « Pendant la nuit, l'ange du Seigneur le fit lever. D'elle-même, la porte s'ouvrit devant eux. Ils croyaient rêver. » Alors Catherine Labouré continue son récit, elle ajoute « Mais ma surprise a été encore bien plus complète quand j'ai vu tous les cierges et flambeaux allumés, ce qui me rappelait la messe de minuit. Cependant, je ne voyais pas la Sainte Vierge, et l'enfant me conduisit dans le sanctuaire, du côté du fauteuil de Monsieur le directeur, et là, je me suis mise à genoux, et l'enfant est resté debout tout le temps. Comme je trouvais le temps long, je regardais si les veilleuses ne passaient pas par la tribune. » Les veilleuses, ce sont les sœurs qui veillent pour voir s'il n'y a pas un incendie ou quelque chose. « Enfin, l'heure est arrivée, » dit Catherine Labouré. « L'enfant me prévient. Il me dit, « Voici la Sainte Vierge, la voici. » Et j'entendis comme un bruit, comme le frou-frou d'une robe de soie qui venait du côté de la tribune, auprès du tableau Saint-Joseph, là, qui venait se poser sur les marches de l'autel, du côté de l'Évangile, dans un fauteuil pareil à celui de Sainte-Anne. Pourtant, ce n'était pas Sainte-Anne qui était dans ce fauteuil, mais la Sainte Vierge seulement. Ce n'était pas la même figure de Sainte-Anne. Je doutais si c'était la Sainte Vierge. Cependant, l'enfant qui était là me dit, « Voici la Sainte Vierge. » Et à ce moment, il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. Ce qui se passait au-dedans de moi, il me semblait que je ne voyais pas la Sainte Vierge. Évidemment que tout ce début a des apparences d'un rêve, hein, comme la libération de l'apôtre Pierre dans les Actes qui croyait rêver, mais le récit est bien tissé de précisions réalistes qui cadrent mal avec un rêve. Hein. Catherine Labouré craint le passage des veilleuses qui circulent la nuit dans la tribune latérale. Elle doute de l'identité de la Vierge, et aussi Sainte Bernadette se défendra au seuil de la première apparition à Lourdes, en observant les arbres qui ne remuaient pas en dépit de l'étrange coup de vent. Vous vous souvenez, dans le récit de Sainte Bernadette, hein? Or, Catherine Labouré est debout dans le chœur à gauche devant la table de communion, puis elle observe attentivement le fauteuil où la visiteuse, la Sainte Vierge, est assise en face d'elle, sur les marches de l'autel. Il est pareil à celui du tableau accroché au-dessus du reliquaire de Monsieur Vincent, Saint-Vincent-de-Paul, celui où Sainte-Anne enseigne à sa fille, la petite Vierge Marie. Si ce n'est pas Sainte-Anne qui est assise, est-ce que ce serait la Vierge, debout dans le tableau de Sainte-Anne? Ne serait-elle installée dans le fauteuil de sa mère? Et l'enfant répète, « Voici la Sainte Vierge ». Mais Catherine ne réalise pas, elle reste à distance près du fauteuil de ce monsieur Richenet, placé là en vue de la grand-messe de Saint-Vincent. Hein? Or, le récit de Sainte-Catherine Labouré continue, elle dit, « C'est alors que cet enfant me parla, non plus comme un enfant, mais comme un homme, le plus fort, et des paroles les plus fortes. Alors, regardant la Sainte Vierge, je n'ai fait qu'un saut près d'elle, à genoux sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur les genoux de la Sainte Vierge. C'est la seule qui touche à la Vierge. Appuyée sur les genoux de la Sainte Vierge. Là, il s'est passé, dit Catherine Labouré, un moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. Elle me dit comment je devais me conduire envers mon directeur. Et plusieurs autres choses que je ne dois pas dire, la manière de me conduire dans mes peines. » Alors, on voit bien que la Vierge lui montre de la main gauche le pied de l'autel, c'est là que je dois venir me jeter, répandre mon cœur, continue Catherine, et puis elle dit, « Je recevrai toutes les consolations dont j'aurai besoin. » Je lui ai demandé tout ce que signifiaient toutes ces choses que j'avais vues, et elle m'expliqua tout. Bon. Alors, quelles explications Catherine a-t-elle entendues durant cette rencontre intime au contact de Notre-Dame? Bien, elle a tenté de le transcrire à la fin de sa vie, 46 ans après l'apparition, le 30 octobre 1876, par deux fois. C'est l'abbé Laurentin qui a établi la version la plus complète possible en collationnant les deux rédactions qui ont été éditées en synopse, comme on fait pour les évangiles. Si vous voulez lire le meilleur petit livre sur toute cette question, c'est intitulé « René Laurentin, vie de Catherine Labouré ». C'est publié chez Desclés de Brouwer, couverture jaune. C'est vraiment remarquable. Alors voici la version que René Laurentin a conservée des écrits de Catherine Labouré. C'est écrit « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Vous aurez bien de la peine, mais vous vous surmonterez en pensant que vous le faites pour la gloire du bon Dieu. Vous connaîtrez ce qui est du bon Dieu. Vous en serez tourmenté jusqu'à ce que vous l'ayez dit à celui qui est chargé de vous conduire. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce. Ne craignez pas. Dites tout avec confiance et simplicité. Ayez confiance. Ne craignez pas. Vous verrez certaines choses. Rendez-en compte, c'est-à-dire ce que vous verrez et entendrez. Alors ce que Catherine Labouré est invitée à dire, avec confiance, ce sont les visions, les paroles qui lui seront données. Ce sera la médaille qu'elle sera bientôt invitée à faire frapper. Et l'apparition conclut, vous serez inspiré dans vos oraisons, rendez-en compte. Et cette promesse d'assistance est suivie par l'annonce de malheur. Oh, les temps seront mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé, etc. Mais écoutez bien ce qui suit, vous tous et tous qui vivez en communauté, c'est un peu plus loin. La Sainte Vierge dit « J'ai de la peine ». Il y a de grands abus sur la régularité, la pratique de la règle dans les congrégations et les ordres religieux. Elle dit « Les règles », la Sainte Vierge qui parle, « les règles ne sont pas observées ». Il y a un grand relâchement dans les deux communautés. Les deux communautés, c'est la communauté des Lazaristes et la communauté des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, dans laquelle elle vient d'entrer. Et la Sainte Vierge continue en disant, « Dites-le à celui qui est chargé de vous, quoiqu'il ne soit pas supérieur. Il sera chargé d'une manière particulière de la communauté. Il doit faire tout son possible pour remettre la règle en vigueur. Dites-lui de ma part qu'il veille sur les mauvaises lectures, les pertes de temps et les visites. Lorsque la règle sera remise en vigueur, il y aura une communauté qui viendra se réunir à la vôtre. Ce n'est pas l'habitude, mais je l'aime. Dites qu'on la reçoive. Dieu les bénira et ils y jouiront d'une grande paix. » Et c'est en 1850 qu'elle va se réaliser cette prédiction, et deux communautés vont entrer dans la famille de Saint-Vincent de Paul, celle des Sœurs de la Charité fondée par Elizabeth Ann Seton, qui est devenue depuis lors la première sainte canonisée des États-Unis, n'est-ce pas, une ex-anglicane, puis celle des Sœurs de Charité d'Autriche fondée par Léopoldine de Brandis. Alors la communauté jouira d'une grande paix, elle deviendra grande, conclut la Sainte Vierge. Mais pour enchaîner sur l'annonce de troubles imminents, bien elle dit que de grands malheurs arriveront, le danger sera grand, cependant ne craignez point, dites de ne point craindre, la protection de Dieu est toujours là, d'une manière toute particulière, et Saint-Vincent protégera la communauté. Alors, elle ajoute ensuite un peu plus loin, ayez confiance, vous connaîtrez ma visite et la protection de Dieu, celle de Saint-Vincent sur les deux communautés. Et elle ajoute à la fin, « Pour le clergé de Paris, il y aura des victimes. Monseigneur l'archevêque mourra. » Et c'est curieux, parce que ça se réalisera peut-être pas en 1830, mais bien en effet en 1848, Monseigneur Affre sera tué sur les barricades en juin 48. Et puis... il y aura peut-être aussi la mort de Monseigneur Darbois, aussi l'archevêque de Paris, en 1871, qui est tué comme ça. C'est des prédictions étranges, et nous verrons par la suite comment la révélation de la médaille miraculeuse va surgir, et ce qui va arriver à travers le monde grâce à cette étonnante petite médaille. Je reprends ici, rencontre spirituelle, le récit de Sainte Catherine Labouré qui nous raconte les trois apparitions qu'elle a reçues de la Sainte Vierge. Elle dit dans son texte, à un moment donné, je suis resté, je ne sais combien de temps. Tout ce que je sais, c'est que quand elle est partie, je n'ai aperçu que quelque chose qui s'éteignait, enfin plus qu'une ombre qui se dirigeait du côté de la future tribune à droite. Par le même chemin qu'elle était arrivée, je me suis relevé de dessus les marches de l'autel et j'ai aperçu l'enfant là où je l'avais laissé et il me dit « Elle est partie ». Nous avons repris le même chemin, toujours tout allumé, et cet enfant était toujours sur ma gauche. Je crois que cet enfant était mon ange gardien. C'était rendu visible pour me faire voir la Sainte Vierge, parce que j'avais beaucoup prié pour qu'il m'obtienne cette faveur. Il était habillé de blanc, portant une lumière miraculeuse avec lui, c'est-à-dire qu'il était resplendissant de lumière, âgé à peu près de 4 à 5 ans. Revenu à mon lit, il était 2 heures du matin, j'ai entendu sonner l'heure. Je ne me suis point rendormi. Cette longue veillée, toute la nuit, très lucide jusqu'au matin, là, ça assure Catherine qu'elle n'a pas rêvé, hein? Elle ne tarde pas à faire part de son message, donc, à Monsieur Aladel. D'autant qu'elle ressent vivement ce que la Vierge lui a laissé entendre. La Sainte Vierge lui a dit, vous serez tourmenté jusqu'à ce que vous l'ayez dit à celui qui est chargé de vous conduire, vous vous souvenez, hein? Alors, la requête est bien mal accueillie. Monsieur Aladel n'y voit qu'une illusion, une imagination des demandes relatives à la réforme des deux familles, là, des deux congrégations, rejoignent peut-être ces préoccupations bien évangéliques et plutôt radicales. Lui, c'est un des jeunes espoirs à qui l'on commence à faire confiance, hein, pour réorienter les communautés. Mais il se dit, de quoi se mêle cette jeune sœur? C'est une novice, hein? Alors, la perspective d'être premier fondateur le choque. Mais, flatterie déguisée sous des dehors d'une mission, enfin, cette prophétie de malheur sur une nouvelle révolution lui paraît aussi très invraisemblable. Puis, il y a le transfert des reliques de M. Vincent, qui a manifesté une grande ferveur dans le peuple. Alors, comment imaginer une révolution encore? Puis, il y a eu la rapide conquête de l'Algérie, qui promet à ce moment-là, à cette époque, à la France, une grande prospérité, lui semble-t-il. Alors, à l'encontre des pronostics optimistes, chose étrange, bien, la révolution éclate avant la fin du mois, les 27-29 juillet. Bien oui, ça prend pas de temps pour se réaliser. Hein? C'est assez étrange. Hein? Alors, des églises sont profanées, comme on peut lire dans des textes de l'époque. Les croix renversées, les communautés religieuses envahies, dévastées, dispersées, les prêtres poursuivis, maltraités. L'archevêque de Paris lui-même est l'objet de la fureur de la populace. Il est obligé de se travestir et de se cacher. C'est les mauvais jours de 1793, la Révolution française qui reviennent. Et ce qui se vérifie, mieux encore que les violences annoncées, c'est la protection des lazaristes et des filles de la charité, parce que les menaces semblent s'arrêter à la porte de ces maisons-là. Exemple, une bande de jeunes émeutiers de 12 à 14 ans qui assaillent à grands cris la maison des lazaristes rue de Sèvres, au 95 rue de Sèvres. C'est tout près du magasin du Bon Marché, là. C'est pas loin de la chapelle de la rue du Bac. Et il crie, nous avons vu rentrer des armes. Alors un bon père, toujours en soutane, qui n'a même pas voulu se déguiser comme les autres, vient parler aux jeunes avec calme. Il dit, mon enfant, voulez-vous voir mes armes? Oui, monsieur, faites-les voir. Alors, le père ouvre son bréviaire, montre ses images qui ont la chance d'intéresser un jeune interlocuteur, puis dit, en voulez-vous une? Alors, il en donne une à l'enfant qui s'en va triomphant avec son image. Et c'est des aventures très simples, mais qui dénotent le courage quand même de ces hommes devant les événements. Et sous le choc de tous ces événements et ces surprises, eh bien M. Aladel, là, qui écoute Catherine avec plus d'intérêt durant les temps troublés, là, qui commence à s'intéresser. Mais sans lui donner à entendre qu'il va attacher le moindre importance à ses visions. Hein. Et après la tourmente, bien, Catherine revient aux confessions normales, ses petits péchés ordinaires, dont sa contrition et son humilité majeure évidemment l'importance. Elle est jeune. Ça laisse espérer au confesseur que la jeune sœur devient une pénitente sans histoire ni vision. Mais Est-ce fini? Non, non. 4 mois plus tard, la voici porteuse d'une consigne précise. Il faut faire frapper, dit-elle, une médaille à l'effigie de l'Immaculée, qu'elle a vue rayonnante des dons de Dieu. Et ce jour-là, elle est à nouveau saisie d'un grand désir de voir la Sainte Vierge, un désir qui venait de plus loin. Elle écrit « Je pensais qu'elle me ferait cette grâce, mais ce désir était si fort que j'avais la conviction que je ne la verrais belle dans son plus beau. J'ai aperçu la Sainte Vierge à la hauteur du tableau Saint-Joseph, debout, habillée de blanc, une taille moyenne, la figure si belle qu'il me serait impossible de dire sa beauté. Elle avait une robe de soie blanche, aurore, et cette fois, ce n'est pas de nuit que l'apparition s'est produite, mais 5h30 du soir, le 27 novembre, pendant l'oraison, après le point de méditation, dans un profond silence, ajoute Catherine Labouré. Et non plus près du maître-autel comme l'apparition au fauteuil, mais à droite du côté du tableau de Saint-Joseph. Les choses changent légèrement, mais la novice a vu dans l'oraison un tableau représentant la Sainte Vierge, telle qu'elle est ordinairement représentée sous le titre d'Immaculée Conception, en pied, étendant les bras. Elle était vêtue d'une robe blanche et d'un manteau de couleur bleu argenté avec un voile aurore. Il sortait de ses mains comme par faisceau des rayons d'un éclat ravissant. Et la sœur entendit au même instant une voix qui disait « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes ». Autour du tableau, elle lut en caractère d'or l'invocation suivante. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et l'autographe de Catherine précise ses sentiments d'alors. Elle dit, ici, je ne sais m'expliquer sur ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai aperçu, la beauté et l'éclat et les rayons. Je répands ces grâces sur les personnes qui me les demandent, entendit Catherine. Elle me fit comprendre combien il était agréable de prier la Sainte Vierge et combien elle était généreuse envers les personnes qui la prient, que de grâces elle accordait aux personnes qui les lui demandent. Quelle joie elle éprouve en les accordant. Alors, Monsieur Aladel, le prêtre, continue son récit en termes qui coïncident assez laconiquement avec ceux de Catherine. Voici, quelques moments après, ce tableau se retourne et sur le revers, elle distingue la lettre M, surmontée d'une petite croix. Vous savez, puis au bas, il y a les deux cœurs, les 5 cœurs de Jésus et de Marie. C'est comme ça sur toutes les médailles miraculeuses. Et le récit continue, après que la sœur eut bien considéré tout cela, la voix lui dit... Il faut faire frapper une médaille sur ce modèle, et les personnes qui la porteront et qui feront avec piété, très important, qui feront avec piété cette courte prière, jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. Il ne s'agit pas de magie. Il s'agit d'un objet qui augmente la foi, qui permet à l'âme de se tourner vers Marie avec amour. C'est simplement un objet béni qui rappelle, qui remet en confiance. Voici comment Aladel racontera plus tard l'apparition, Monsieur Aladel. Mais sur le moment, là, il l'accueille fort mal. Ce retour des visions, lui, c'est pour lui, c'est mauvais signe. Il lui dit d'ailleurs, pure illusion, si vous voulez honorer Notre-Dame, imitez ses vertus, puis gardez-vous de l'imagination. En somme, pourquoi des médailles, Mais Catherine se retire apparemment calme, sans s'inquiéter davantage. C'est ce que constate son confesseur. Elle ne se révolte pas. Mais cela tient avant tout à sa maîtrise d'elle-même. C'est une femme jeune, mais qui a beaucoup de caractère. On l'a vu tout à l'heure, toutes les responsabilités qu'elle avait quand sa mère est morte. Puis, le choc est rude, mais elle est soulagée d'avoir osé parler. Elle tente d'obtenir ce que la Sainte Vierge demande, mais elle veut obéir. Le prêtre, M. Aladel, est si peu intéressé au message qu'il n'a jamais retenu la date de cette première apparition, qui est le 27 novembre. Et Catherine la rappellera beaucoup plus tard, en 1841. Il n'a pas davantage, ce prêtre, mesuré combien de jours après l'événement Catherine est venue lui en faire part. L'important pour lui, c'est de l'inviter fermement à ne pas y revenir. Mais voici qu'en décembre 1830, elle reçoit le tableau. Elle rédigera plus tard le récit de cette troisième apparition de Notre-Dame, deuxième et dernière de la médaille. Elle n'a pas remarqué le temps, c'est-à-dire la date. Comme le 27 novembre, c'est à 5h30, après le point de la méditation. Et c'est le même signal, le froufrou d'une robe de soie. Il y a des différences là. Elle vient non plus du côté de la tribune, mais de derrière l'autel. Puis le tableau de la médaille se présente non plus à la hauteur du tableau Saint-Joseph à droite, mais au centre, auprès du tabernacle, un peu en arrière. Ce sont des petits détails qui, psychologiquement, ont leur importance. De toute façon, les rayons qui rejaillissent des mains remplissaient tout le bas de manière qu'on ne voyait plus les pieds de la Sainte Vierge, écrit-elle. Et comme la dernière fois, une voix se fait entendre, là, au fond du cœur. Ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge obtient aux personnes qui les lui demandent, c'est ce que la voix dit. L'apparition a le caractère d'un adieu, hein? Et Catherine, dont le séminaire, ou si vous voulez, le noviciat s'achève, reçoit ce message, « Vous ne me verrez plus, mais vous entendrez ma voix pendant vos oraisons. » Et c'est donc la fin des visions. Toutes ont eu lieu à la chapelle de la rue du Bac, à Paris. La fameuse rue du Bac. Seules les communications ou inspirations intérieures les prolongeront. Et voilà Catherine, Sainte Catherine Labouré, qui est prise entre le devoir de faire part de la requête qui est renouvelée, là, et qui est très étrange. Imaginez une jeune femme de 25 ans qui est prise dans une histoire pareille, c'est pas facile. Hein? Puis elle est prise donc dans ce message, puis l'obéissance à son directeur qui veut plus entendre parler de ses imaginations. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en premier lieu l'obéissance. L'obéissance à ce prêtre. C'est assez extraordinaire quand on y pense. Trois apparitions de la Vierge en 1830, pas une demi-douzaine comme il y en a qui ont dit. Petite paysanne bourguignonne, 23 ans, qui entre au séminaire des Filles de la Charité à Paris, donc en avril 1830. Elle trouve au séminaire une liberté spirituelle qui lui a fait écrire « Mes pieds ne touchaient plus terre, ne touchaient plus terre, tellement elle est heureuse. » Et sa foi se fait transparente. Je vous rappelle que dans sa prière, bien, elle voit le cœur de M. Vincent, là, en avril 1830, c'est une première apparition, puis le Christ dans l'Eucharistie aussi. Mais là, les apparitions de Notre-Dame, elle reçoit sa mission dans la nuit du 18 au 19 juillet, puis le 27 novembre et en décembre 1830, le modèle d'une médaille à diffuser. Hein, représente la femme, Marie, revêtue du soleil, dont parle l'Apocalypse au chapitre 12. Hein, les mains de la Vierge rayonnent la grâce du Christ. La diffusion de cette médaille est accompagnée de guérison, de conversion et de protection. Ça commence 2 ans plus tard. Ça va catalyser, c'est un mouvement, disons, charismatique, où s'inscrivent le fameux jeune Ozanam, là, qui a 17 ans en 1830, le fondateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul, dont je vous ai parlé déjà, je vous ai fait toute une émission sur Ozanam. Puis Newman, dont je vous ai parlé aussi, le cardinal Newman, anglican, éminent, converti au catholicisme, devenu cardinal, qui accroche cette médaille à son cou quelques mois avant sa conversion. La conversion, le 22 août 1845, Alphonse Ratisbonne, ce jeune banquier juif, qui voit la même apparition à Rome le 30 janvier 1842, il se fait baptiser le 31 janvier, le lendemain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Or, la médaille, frappée en mai-juin 1832, n'était répandue qu'à 50 000 exemplaires au bout de 2 ans. Mais 3 ans plus tard, 1 million. 7 ans plus tard, 100 millions. Puis en 1876, 1 milliard de médailles à la mort de Sainte-Catherine Labouré en 1876. Tout ça a soulevé un renouveau profond de foi, puis même d'expansion missionnaire dans l'Église, à commencer par les deux familles religieuses fondées par Saint-Vincent-de-Paul, les Lazaristes puis les Filles de la Charité. Je vous dis tout de suite que Sainte-Catherine Labouré a été canonisée seulement en 1947, hein, le 27 juillet. Et on peut dire que ce jugement d'Église compense l'absence d'une reconnaissance officielle des apparitions qui a été rendue impossible par le secret où s'était enfermée cette voyante jusqu'à sa mort. Seul le prêtre savait, et quelques sœurs qui n'en parlaient pas parce qu'elles dirigeaient la communauté. C'est assez extraordinaire. C'est la même chose pour l'apparition d'Alphonse Ratisbonne par le diocèse de Rome. Là, c'était un peu difficile, mais il n'y a pas de doute que ce soit, à mon avis, authentique. Et nous verrons tout à l'heure la suite de la vie de Sainte Catherine Labouret. D'entendre le chœur grégorien du Mans en France sous la direction de Philippe Lenoble qui chante des chants magnifiques en l'honneur de la Sainte Vierge. C'est le chœur grégorien en fait de la cathédrale du Mans. Revenons à Sainte Catherine Labouret qui toute sa vie a fait au fond ce qu'elle avait commencé à faire sur la ferme de son père à la suite de la mort de sa mère quand elle avait une dizaine d'années. Elle s'est occupée des malades et des pauvres avec un amour et une tendresse et qui ont émerveillé tout le monde, mais aussi avec une fermeté et un humour fort gentil. Elle a été remarquable toute sa vie. Mais arrivée au moment de sa mort, elle est morte au soir du 31 décembre 1876, une sœur qui s'occupait d'elle et qui l'aimait beaucoup, lui dit « Vous voulez donc nous quitter ?» Et Sainte Catherine Labouret ne répond pas. Comme on dit, elle était silencieuse à l'heure de sa mort, comme elle l'avait été pendant sa vie. Et les sœurs enchaînent les prières des agonisants. Elles répètent l'invocation de la médaille « Ô Marie conçue sans péché ». Ces sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul portaient jusqu'à il y a quelques années un costume flamboyant dans un sens. C'était le costume des servantes, mais qui était magnifique, cette grande robe bleue de tissu un peu épais, avec un fichu blanc sur les épaules et sur la tête un chapeau, je dirais, qui montait de chaque côté comme deux ailes de colombe. Et quand elle marchait, ça faisait comme un envol, les deux morceaux de tissu empesés se balançaient un peu. Et quand on allait à la chapelle de la rue du Bac, et qu'on voyait toutes ces sœurs qui remplissaient la chapelle, et qui chantaient à l'unisson d'une seule voix, oh, ça se fait toujours, mais elle ne porte plus ce costume. C'était très embarrassant dans un sens, très difficile à porter. Mais elle le portait à bicyclette, elle le portait partout dans les milieux les plus pauvres, on les reconnaissait partout. Ça leur a valu d'ailleurs de devenir un symbole en France de la charité chrétienne, le signe de la charité de l'Évangile, le signe de la présence du Christ partout, qui se penche sur les malheureux et qui va les chercher là où Mère Teresa aujourd'hui va les chercher. Eh bien, elle faisait ça et je crois qu'elles le font toujours. et avec une telle générosité, une telle bonté, que lors d'événements catastrophiques en France, comme au début de ce siècle, alors que les communautés religieuses ont été chassées de France, eh bien cette communauté n'a pas été chassée. Le gouvernement n'aurait jamais pu chasser les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul. Elles étaient le symbole de l'amour et de la tendresse. Et au moment de sa mort, donc doucement, Sainte-Catherine Labouré s'est assoupie et s'est endormie sans agonie. Une sœur s'étonne de ne voir paraître sur sa figure aucun des signes qu'on remarque sur le visage des personnes qui meurent. Elle déclare même n'avoir jamais vu cela auparavant. Sainte-Catherine Labouré assume doucement et doublement sa mort. C'est une campagnarde qui meurt. Elle est accoutumée à épouser les rythmes de la vie en chrétienne. Elle est heureuse d'aller rejoindre, selon une de ses dernières paroles, notre Seigneur, sa mère et Saint-Vincent, Saint-Vincent de Paul évidemment. Un sourire, deux grosses larmes, et c'est fini, et on lui ferme les yeux. Il est 7 heures. Et cette mort, Sainte-Catherine Labouré l'avait entretenue, ou entrevue même, 33 ans auparavant, durant la retraite de mai 1843, à la seule lumière des pauvres et de la Sainte Vierge. Elle écrivait « Marie a aimé les pauvres, et une fille de la charité qui aime les pauvres n'aura point de crainte de la mort. On n'a jamais entendu dire qu'une fille de la charité, qui a bien aimé les pauvres, ait eu des craintes effrayantes de la mort. Au contraire, on l'a vu faire la mort la plus douce. » Et c'est bien cela qu'on l'a vu vivre et mourir au soir du 30 décembre 1876. Oui, c'était bien elle qui a vu la Sainte Vierge. Et là, la conspiration du silence dans la maison de la rue du Bac a perdu sa raison d'être, hein, puisqu'elle est morte. Alors au réfectoire, ce soir même, une sœur, sœur Dufesse, qui déclare, puisque sœur Catherine est morte, il n'y a plus rien à cacher. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit, et elle va chercher dans son secrétaire le récit autographe de la première apparition de la Vierge que Catherine avait écrit pour elle le 30 octobre après la confidence. C'est la lecture spirituelle ce soir pour la communauté. Et c'est comme ça que toute la communauté apprend vraiment de façon claire. Et alors on se dispute le bonheur de préparer puis de veiller son corps cette nuit. Même celles qui craignent le tête-à-tête avec un cadavre le font avec joie et empressement, et Catherine est exposée dans la chambre des morts que l'architecte a établie dans cet hospice à côté de la chapelle, à gauche de l'entrée, puisqu'on reçoit des malades et des mourants. Et dans ses mains, un chapelet avec la médaille. Au-dessus de sa tête, une statue de Notre-Dame. Sur elle, un lys et des églantines, venues on ne sait d'où en cette saison. « Qu'elle est belle dans la mort !» déclare sœur Madeleine. Elle ne la trouvait pas belle de son vivant. C'est étrange, hein? Et les jours suivants, mais l'affluence continue. Au caveau, où le cercueil est exposé sur 2 tréteaux, il y a même la maréchale de MacMahon, la comtesse II, fille de l'ex-empereur du Brésil, l'épouse du sénateur Buffet, mais surtout le petit peuple du quartier. Et dans les premiers jours, une pauvre femme amène dans une caisse montée sur roulette un enfant de 12 ans qui est venu au monde avec les jambes nouées. Alors elle est éplorée devant son enfant, puis elle tient à le descendre dans le caveau. Ce n'est guère commode. Il n'y a qu'une échelle de meunier assez raide, et une sœur calme l'enfant inquiet avec des friandises. Puis là, la famille le descend en s'aidant de cordes. Ça rappelle l'Évangile. Et voici, chez Jaché, là, et voici qu'il se relève l'enfant de lui-même, et ses jambes sont devenues fermes. Et c'est sans doute le premier miracle de Sainte-Catherine Labouré pour les pauvres. Mais le bénéficiaire a disparu. Avant les enquêtes, comme beaucoup de pauvres et d'anonymes, et dans l'affluence, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui viennent. Et Mila, évidemment, qu'il y a des objections qui sont suscitées. Oh, une vie trop ordinaire, cette sainte. Est-ce une sainte, vraiment? Puis il y a l'espèce de scandale d'une voyante banale. On voudrait que la voyante soit une femme instruite, qu'elle soit docteur en théologie ou je ne sais quoi, mais non. On voudrait que la gloire humaine soit glorifiée, la gloire glorifiée, quoi. Et puis non, Non, c'est une simple femme. Les contemporains de notre Seigneur ne se scandalisaient-ils pas de ce que ses parents étaient pauvres, de ce qu'ils sortaient de Nazareth, de ce qu'ils mangeaient et buvaient comme tout le monde, de ce qu'ils conversaient avec les pécheurs? Alors, finalement, on se rapporte au texte de l'Évangile, « Bienheureux les pauvres ». Bienheureux les pauvres. Je la regardais comme la bénédiction de la maison, dit une sœur, et maintenant j'aime la considérer au ciel comme une protectrice. Quand on a su vivre pour Dieu et pour Dieu seul, voici ce qui arrive lorsqu'on meurt. Elle disait, au dernier jour de sa vie, le 30 décembre, « Faites bien prier que le bon Dieu inspire aux supérieurs d'honorer Marie Immaculée. C'est le trésor de la communauté. Qu'on dise bien le chapelet. Les vocations seront nombreuses si l'on en profite. Elles diminueront si l'on n'est pas fidèle à la règle, à l'Immaculée Conception et au chapelet. Nous ne sommes pas assez les servantes des pauvres. Il faudrait que les postulantes aillent dans les hôpitaux pour apprendre à se surmonter. » Au fond, elle parlait très simplement, mais elle avait l'Évangile dans son cœur. Et ça concorde avec les paroles de Jésus à la messe aujourd'hui. « N'ayez pas l'amour du monde, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas en lui l'amour du Père. Tout ce qu'il y a dans le monde, les désirs égoïstes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde, dit Jésus, avec ses désirs, est en train de disparaître, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. »